Question de preuve, épisode 3, le 20 décembre 2018, l'intelligence artificielle au service du droit. Je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. Du studio Léo Laporte, nous accueillons notre premier invité, M. Alain Lavoie, président, cofondateur de la société Hirosoft et expert en technologie documentaire. Nous discuterons ensemble d'intelligence artificielle, de gestion de documents, d'extraction d'informations, de rédaction automatisée des lois, et on verra si l'IA est sur le point de remplacer les avocats et les juges. Alors, sans plus tarder, nous accueillons M. Alain Lavoie. Bonjour Alain.
Bonjour Hugo.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Merci d'être avec nous pour notre premier, à titre de premier invité de Rivercast Media et de Questions de preuve. J'aimerais ça qu'on discute un petit peu de ton parcours et pourquoi Hirosoft? Ça vient d'où? Ça veut dire quoi?
Premièrement, mon parcours, si on veut prendre ça, on peut prendre ça assez loin.
Vas-y.
Mais rapidement, mon parcours, c'est... au secondaire, on me demandait, j'étais bon en maths, puis on me dit, tu devrais aller en actuariat. C'est que j'ai décidé en secondaire 3 que je m'en allais en actuariat. C'est que j'ai grimpé jusqu'à l'université, jusqu'en actuariat, en mathématiques actuarielles. Et puis c'était mon premier, ma première étape, mon premier jalon. Et quand je suis arrivé, j'ai fait une heure de cours en actuariat et j'ai décidé de changer pour aller plutôt en statistique. M'intéresser à l'informatique en même temps.
Le droit, ça t'a jamais tenté?
Pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là. Et non, j'ai pas de... pourquoi j'étais en mathématiques, c'est surtout parce que j'ai pas de mémoire, puis c'est plutôt par la compréhension que... Et c'était plus facile en mathématiques de comprendre que de... mais aussi peut-être en droit, ça aurait été bien aussi. Mais tout ça pour dire, je rentrerai pas dans ce...
Non, je rentrerai pas là. Tu ne convaincras jamais que la mathématique, c'est plus facile à comprendre que le droit, mais...
Tout ça pour dire que j'ai été... Après ça, ça m'intéressait tous les modèles prédictifs. J'ai fait des stats, beaucoup de stats à l'époque en mathématiques. En fait, dans ma vie, en université, j'ai fait 9 cours de statistiques essentiellement et de prédire des choses. Fait que là, j'ai fait mes études. J'ai fait mes études au département de mathématiques. Après ça, j'ai été faire ma maîtrise en recherche professionnelle. Je me suis intéressé aux problèmes d'horaire, des horaires de cours, des horaires de stage, des horaires de médecin, des colorations de graphes. Et on utilisait des modèles de prédiction ou des modèles de recherche opérationnelle.
C'est-tu quelque chose qui pourrait s'appliquer, disons, pour les horaires des tribunaux, les salles de cours?
Bien sûr. J'ai déjà soumissionné, mais on n'avait pas gagné à l'époque. Oui, on peut très bien le rôle qu'on voit d'un
tribunal.
C'est la recherche opérationnelle qui pourrait aider énormément dans ce milieu-là, parce que je donne un exemple. Dans les horaires de résidents de médecine, ben il y a des étudiants qui prennent des choix pour aller dans les hôpitaux. Il y a des patrons, des médecins qui doivent les prendre comme résidents. Il y a des contraintes de dire, j'ai besoin, dans certaines disciplines, j'ai besoin d'avoir un niveau 7 avec un niveau 3, un résident de niveau 7 avec un résident. Plein de contraintes qui peuvent amener. Mm-hmm. Mais voyons-le dans les salles de cours. Donc, vous avez des procès, vous avez des salles de cours qui sont disponibles, vous avez des juges qui sont disponibles, et là, il faut essayer de trouver le meilleur agencement. Et ça, il y a des algorithmes, des modèles mathématiques qui peuvent aider à faire ces choses-là. Donc, je ne sais pas où sont rendus les tribunaux aujourd'hui, mais à l'époque, on avait regardé ça pour soumissionner à ça, puis on n'avait pas eu le contrat par rapport à ça.
Est-ce que je peux te dire que ça arrive encore qu'on a des manques de juges, des engorgements ou des choses comme ça qu'on peut pas procéder. Ceci dit, je te laisse continuer.
Et là, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, à savoir d'où vient Hirosoft, après ça, j'ai vers la fin de mon bac, j'ai décidé d'aller vers les mathématiques informatiques. Donc ça, c'était au département d'informatique et de recherche professionnelle.
On parle de quelle année à peu près?
On parle 86-87, et c'était à l'époque, si les gens se souviennent, c'était à l'époque où il y avait un hype pour l'intelligence artificielle aussi, à cette époque-là. Mais on pourra en reparler un peu plus tard. Mais donc là, je fais ça, et je m'en vais faire une maîtrise en recherche professionnelle sur des problèmes d'affectation, entre autres des problèmes d'horaire. je m'en allais vers une carrière au niveau universitaire. Et en 95 arrive le hype de l'Internet. Et là, à l'époque, un bon ami à moi, qui était rendu professeur au Centre de recherche en droit public.
On parle de René-Luc Morin?
Non, on parle de Daniel Poulain dans ce cas.
Daniel Poulain. Hein.
De Lexum, l'époque, ouais. Qui me dit, Alain, j'ai un beau projet, ça s'appelle SGML et Inforoute pour le droit. Est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec...
SGML, qui a d'ailleurs été un petit peu une mode...
C'était le papa du XML qu'on parle aujourd'hui. Et donc, et en même temps, je décide de laisser la carrière universitaire pour aller vers la carrière partir une compagnie, installer Internet, puis j'essaie de partir. Puis là, ben pour le nom, ben on venait du département d'informatique et de recherche opérationnelle. On n'était pas trop créatifs. C'est qu'on a dit, on va mettre ça Hirosoft. Au lieu de Zero, on va mettre Hirosoft. Donc, Hirosoft veut dire informatique et recherche opérationnelle. Et donc, c'est comme ça que ça a parti. En même temps qu'on partait la compagnie, bon, on a décidé de... J'ai travaillé au Centre de recherche en droit public pendant 2 ans.
Okay.
Avec Daniel, avec l'équipe de Daniel Poulin.
OK. Et donc, ton cofondateur chez Hirosoft, quand tu dis « on », c'est René-Luc Morin.
Oui, c'est René-Luc qui était en fait... C'était mon partenaire de bac en informatique. On s'est connus à la première journée au bac, en étant en actuarié au départ aussi. René-Luc a fait ses études en statistique et il était directeur d'informatique pendant un certain temps, là, avant qu'on parte ensemble pour notre aventure chez Hirosoft.
Et l'aventure chez Hirosoft, 23 ans d'opération, c'est ça?
Oui, 24
ça fait...
ans en mai.
Donc, 24 ans en mai, ça fait 21 ans que je pratique, donc c'est à peu près aussi le moment où on s'est rencontrés là, au début chacune de notre entreprise. Et je lisais récemment que Hirosoft, après 23 ans, est en mode start-up.
Oui. En fait, nous, on a toujours été dans le monde gouvernemental. Pour les gens qui nous connaissent, on fait des systèmes dans le monde juridique. On a fait beaucoup de systèmes dans le monde juridique. Des clients, là, c'est Conseil de la magistrature, Cour du Québec. On a fait l'intranet des juges de la Cour du Québec. On a fait le système pour le Conseil de la magistrature. On est au tribunal. On a plusieurs systèmes qu'on a fait pour le tribunal administratif du Québec, pour le ministère de la Justice, pour le CAIJ, ainsi de suite. Donc, Yvon Blais, à une époque, pour ceux qui se rappellent, de REJB, bien, on était ceux qui avaient fait tout le back-end pour Yvon Blais pour alimenter la base de données REJB, le recueil électronique de jurisprudence du gouvernement, pas du gouvernement, mais du barreau.
Et à cette époque-là, déjà, la recherche naturelle était quelque chose qui était important.
En 95, rappelez-vous, les gens, il y avait Naturel, en fait, il y avait le chèque qui s'appelait Naturel, de la compagnie Ardilogue, de mémoire, qui était là, et qui avait... Et je me rappelle, au CRDP, on avait travaillé sur une première version dans les années 95 pour l'amener sur le web, parce que le web commençait. Donc, comment on peut mettre un engin de recherche à l'intérieur? Donc, on était déjà dans le monde du texte. Donc, je suis passé du monde de la recherche opérationnelle au monde du texte dès 95 avec le CRDP, mais avec la compagnie aussi, avec Hirosoft.
Donc, c'est l'époque où LexisNexis, on était avec virgule, virgule, point, virgule, guillemets, on ouvre les guillemets et les parenthèses. On essaie d'éviter ça parce que...
FolioViews pour les anciens, FolioViews qui existait aussi à cette époque-là.
Okay, nice.
Pour publier les corpus juridiques.
Je comprends aussi que Justice Canada aussi utilise vos services. Hein?
En fait, en 2001, on a fait le système... Je vais revenir là, sur le fait, c'est qu'on fait un système. Il y a un système qu'on a développé chez Hirosoft en 97 et qu'on a vendu au gouvernement du Québec ou au gouvernement canadien, qui permet à des légistes de rédiger des lois et règlements. Donc, on a un système de rédaction. Qui permet de les accompagner dans leur rédaction. On a une mémoire de rédaction, donc ils peuvent aller piger dans le corpus pour pouvoir les aider à rédiger correctement. On a un système aussi qui est capable de lire des lois modifiantes et des règlements modifiants et suggérer des modifications aux lois. Donc, on a développé, et puis ça, c'est basé sur des traitements automatiques des langues naturelles. Donc, qui est capable, qu'on a développé ça, puis qu'on alimente depuis 20 ans, là, ce système-là. Et on a un système qui est aussi, que les gens connaissent, de diffusion. Donc, Légis Québec, au Québec, par exemple, c'est nos systèmes qui sont à l'arrière de ça. Donc, ça, on a une suite logicielle qu'on a vendu au Québec, mais qu'on vend aussi dans tous les pays du Commonwealth à travers le monde. Donc, Bermudes, Barbade, Bahamas, utiliser nos systèmes dans les choses. La ville de Québec utilise ça aussi. On essaie de rentrer dans les villes aujourd'hui avec cette suite logicielle-là qu'on a.
Bermudes et Bahamas, j'espère que c'est toi qui s'en va faire l'installation.
En fait, assez particulier, c'est surtout René-Luc qui était dans ces régions-là. mais c'est des belles destinations. Mais belle destination la première fois, mais quand ça fait 9 fois que l'employé y va, c'est moins intéressant.
Parle-moi rapidement, quand tu dis que vous avez un système au niveau des lois modifiantes, c'est-à-dire que, est-ce que je comprends bien que c'est un système où lorsqu'une loi modifiante va faire la recherche automatiquement pour aller trouver quelle loi elle a modifiée et faire les modifications?
En fait, quand on sanctionne un projet de loi modifiant à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est un projet qui modifie une loi. OK? Nous, ce qu'on fait, notre système va aller lire cette loi-là, puis il va dire, en fonction de ce que je lis, bien, on devrait modifier le deuxième paragraphe du troisième alinéa de l'article 5 de telle loi. Et on devrait le modifier de telle façon. Puis là, on propose aux gens du ministère, voici la version avant, voici la version comme nous, on vous propose, si vous l'acceptez. C'est beau. Puis ça, quand on est arrivé au ministère de la Justice, il me semble, de mémoire, en 1999, on a amélioré à peu près de 400% la façon de mettre à jour les lois à ce niveau-là. Les gens qui se rappellent à l'époque, ça prenait beaucoup de temps à mettre à jour les lois. Aujourd'hui, à cause de systèmes comme ça, on est capable d'aller beaucoup plus vite.
Par curiosité, le bilinguisme est intégré ou ça n'a rien à voir?
Le bilinguisme est intégré. On a une version unilingue puis une version bilingue parce qu'il y a des pays qui n'ont pas deux langues. Mais c'est une des grandes richesses qu'on a ici au Québec, au Canada, de pouvoir faire des systèmes informatiques qui sont en partant bilingues.
Tout à fait. On s'est égaré un peu, mais on parlait rapidement de l'aspect start-up après 23 ans d'opération.
Oui. En fait, c'est ça. Donc, on était pendant longtemps dans le monde gouvernemental. On vendait nos systèmes, c'était intéressant, mais le cycle de vente était très, très long. Et depuis 3 ans à peu près, on voyait que qu'il fallait aller ailleurs. Essentiellement. Et là, on s'est posé la question, on fait bien des choses avec le monde juridique. On fait bien des choses dans le monde des documents juridiques. On pourrait-tu appliquer ça à d'autres domaines? On pourrait-tu, par exemple, prendre notre système de loi et règlement et en faire un système pour toutes les villes du Québec, les villes de la planète, par exemple? On pourrait-tu faire ça pour aller aider à lire des contrats juridiques ou contrats d'assurance? Et c'est ce qu'on a fait. On s'est réinventé depuis 3 ans. On a investi quand même beaucoup d'argent. On avait laissé beaucoup d'argent dans la compagnie, donc on a pu réinvestir à même nos avoirs, essentiellement dans la compagnie, pour pouvoir créer des nouveaux produits. Donc, on s'est mis dans un mode start-up où on n'était plus dans notre zone de confort comme on était. On était un lifestyle company pendant 20 ans, mettons. Puis depuis 3 ans, on a décidé de prendre des risques et de se réinventer par rapport à ça. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une start-up, mais avec 23 ans d'expérience. Donc, on le fait de façon très, très planifiée.
Là. OK. Puis là, on parle de 3 segments. Je pense chez Aerosoft, on a la division juridique, intelligence et numérique.
Oui. La division intelligence, c'est là où on a tous nos gens là, qui vont concevoir les algorithmes en traitement automatique des langues naturelles et en intelligence artificielle. Et qui vont concevoir des produits comme le produit. On a un autre produit qui est un coffre-fort électronique qui permet de déposer des documents, des documents pour pouvoir les amener à la cour. Là. Donc, un des exemples, c'est un de nos clients, c'est le laboratoire de sciences judiciaires, médecine légale. Toutes les enquêtes policières, l'analyse d'ADN, l'analyse balistique, tout est versé et on est capable de reproduire la chaîne de possession, on est capable de dire qui a vu quoi, à quel moment, et être capable de, essentiellement, répondre à la question si un juge nous la posait. Est-ce qu'il y a possibilité de modifier le document sans laisser une trace? Mais c'est non, la réponse. Donc, c'est la division intelligence, et avec aussi un centre d'expertise qui est à l'intérieur de ça. La division numérique, c'était créé il y a 2 ans, en fait, l'année passée. C'était créé parce qu'on était sollicité beaucoup par des grandes firmes comme sous-contractants. Il n'y avait pas l'expertise, puis comme sous-contractant, puis on s'est dit, bien, on va démarrer une division de services conseils où on va pouvoir placer des gens dans des organisations, les accompagner dans des projets spécifiques de transformation numérique et d'être en mesure de projets d'innovation là, en intelligence artificielle et qui seront accompagnés par notre centre d'expertise qui est dans la division intelligence, qui, elle, donne des services à toutes les autres. Puis la division juridique, bien, c'est la division qui demeure celle qui est notre ADN depuis le début. C'est celle qui permet d'offrir des services au monde juridique.
Gestion de l'information législative, surtout.
Exactement, celle-là.
C'est
législative, mais aussi jurisprudentielle. Je vous donne un exemple pour ceux qui connaissent droit civil en ligne d'Yvon Blais. À l'époque, c'est nous qui avons fait tous les liens entre les différents... entre les différents corpus, la jurisprudence et aussi la législation.
Bon. Et est-ce que les projets, disons, avec l'informatique municipale, le nouveau projet d'autonomisation des acteurs judiciaires de cyberjustice et tout ça, rentrent dans le côté Hérosoft juridique?
Oui. Oui, oui. Puis on a des ententes aussi avec Cyberjustice. Là, on travaille sur des projets de recherche avec eux dans ce contexte-là.
Plus récemment, en 2018, vous êtes associé avec Lexum pour un projet sur l'intelligence artificielle visant la protection des renseignements personnels. Parle-nous un peu de ça. Évidemment, c'est extrêmement d'actualité. Donc, on a 2 sujets qui nous touchent, qui tiennent tout le monde à cœur. La vie privée ou la protection des renseignements personnels versus l'intelligence artificielle. Où on se situe là-dedans, Alain?
En fait, le projet, c'est un projet qu'au départ, on était les 2 compagnies. Bon, il y a eu des changements chez Lexum depuis un certain temps. La compagnie était vendue essentiellement. Donc, nous, on a continué de notre côté à travailler sur ce projet-là. On a travaillé avec Ivado qui se trouve être l'Institut de valorisation des données. Donc, Ivado, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un regroupement de chercheurs à l'Université de Montréal qui a eu beaucoup, beaucoup d'argent dans les dernières années. En 2016, c'est près, ils ont une subvention d'Apogée de 93 millions et où d'autres entreprises et universités ont mis, qui faisait un total de 240 millions sur un certain nombre d'années. Donc, et il y a 1000 chercheurs à travers ça. Et dont le MILA est en dessous de ça. Donc, Donc, on a travaillé avec eux autres. On a travaillé avec... On a un projet qui est... Une première phase de projet qui a terminé dernièrement où on est en train de peaufiner les algorithmes. Le problème avec l'anonymisation des données, c'est par domaine. Il y a beaucoup d'acronymes dans certains domaines. Et là, on est en train de travailler par différents segments de domaines pour arriver. L'autre chose, c'est... Hugo Martin, c'est facile à reconnaître, mais il y a certains noms qui peuvent avoir plusieurs mots. Donc, c'est plus difficile à reconnaître une autre personne quand il y a 11 mots dans ton nom.
Mais est-ce que l'intelligence artificielle et la protection des renseignements personnels vont de pair? Est-ce qu'on n'entraîne pas l'intelligence artificielle en... donnant de l'information?
Oui. En fait, ça va vraiment de pair, là, parce que je crois qu'il faut régler l'histoire de la donnée, il faut régler l'histoire de l'anonymisation des données pour qu'on puisse entraîner des modèles. Souvent, avec nos clients, quand on accompagne nos clients dans des projets d'innovation en intelligence artificielle, pour, les données sont là. Et souvent, le client va dire « Non, ça ne m'intéresse pas ou je ne vais pas plus loin parce que j'ai un enjeu important sur mes données parce qu'il y a l'information. » Ceci dit, il y a une ouverture qui commence à s'installer en ce moment avec certains clients pour être en mesure de dire, OK, on va faire une entente, on va faire un contrat, il y a un contrat qui va bien dire comment tu vas manipuler ma donnée, comment tu vas le faire, puis si jamais tu la rends disponible, tu es dans le trouble par rapport à ça. Donc, on commence à s'ouvrir un peu plus par rapport à la donnée, mais c'est un enjeu quand même, parce que quand on voit toutes les fuites de données qu'il y a présentement, il faut que les compagnies aient des bons protocoles en place, des bonnes politiques pour la protection des renseignements personnels.
Mais où je vais avec ça, c'est que est-ce que même si on donne suffisamment de données par rapport à Hugo Martin, des données anonymes à une intelligence artificielle, tout ce qu'elle va pouvoir ramasser, tout ce qu'elle va pouvoir figurer au bout de la ligne, même si les données que je donne sont anonymes, on va finalement finir par savoir que c'est Hugo Martin finalement qui est allé dépenser, ouais. qui est allé d'un endroit à un autre, quoi que ce soit. Donc c'est quoi la limite de la protection des données personnelles versus ce que l'intelligence artificielle peut faire? Finalement, l'intelligence artificielle est assez intelligente, pour figurer c'est qui, même si les données ont été anonymisées.
En fait, l'IA peut fouiller plus rapidement qu'un humain pourrait le faire, c'est clair. Les ordinateurs, c'est pas d'hier là, que c'est possible de faire ça. C'est en recherche d'informations. On est capable de mettre en place des dispositifs qui vont pouvoir... Mais l'IA peut aller un peu plus loin pour la reconnaissance. Je faisais des conférences il y a quelques années quand il y a eu tout l'avènement de l'open data. Et là, je disais, des fois, on peut publier de la main gauche de quoi, qu'on publie de la main droite de quoi, que les deux sont anonymisés, mais que, dans le fond, en les mettant ensemble, on peut revoir l'information. Il y a une étude que je citais à l'époque, puis je pourrais te l'envoyer, mais une étude qui... un professeur américain qui avait pris des données de Facebook, Twitter et d'un autre réseau social, et il avait réussi, à partir de données anonymisées, à reconstituer 86% du corpus. Donc, il faut juste être prudent avec l'anonymisation parce qu'on donne tellement d'informations un peu partout facilement. Donc, ça peut être un problème. Et l'intelligence artificielle, ça peut aller peut-être un peu. Et là, j'aimerais ça circonscrire l'intelligence artificielle.
Allons-y. Puis aussi, il y a deux modèles d'entraînement de l'intelligence artificielle aussi.
En fait, ce qui... Pourquoi on entend parler beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui? C'est à cause qu'il y a eu des grandes percées au niveau de la recherche dans l'apprentissage profond en 2010-2012. On a eu des grandes percées au niveau de la reconnaissance d'objets dans les images. On a eu, après ça, de 2012 à 2014, c'était dans la reconnaissance vocale. Vous avez probablement tout perçu là, que vous pouvez parler à votre téléphone, puis c'est plus facile de parler à votre téléphone. Là, je ne parlerai pas parce qu'il y a Google Home dans la pièce, mais de parler à son agent intelligent, puis il comprend beaucoup mieux. Et ça, c'est à cause de grandes percées qui se sont passées avec l'apprentissage profond. Et quand j'ai grandes percées, là, puis je n'ai pas les chiffres exacts, mais on passait avec ImageNet là, d'une affaire comme 65% à 80%. C'était un gros, gros, gros step qui a été fait à ce moment-là.
Et ça, c'est le deep learning. Le deep learning, est-ce que ça...
c'est l'apprentissage profond.
Est-ce que ça, juste pour que les gens comprennent bien, est-ce que ça implique d'entraîner ou l'ordinateur apprend seul?
Comment on fonctionne? C'est le deep learning, c'est on prend des données, puis je vais simplifier, là, on prend des données, on les a qualifiées. Un exemple, j'ai des images... Et j'aimerais être en mesure de pouvoir identifier des animaux sur les images. Donc, on arrive avec un ensemble d'images. Il y a quelqu'un qui travaille en dire, je vais dire, ben ça c'est un chat, ça c'est un chien, et ainsi de suite. Et on va donner ça à un modèle qui, lui, va s'entraîner à partir de ça. Et lorsque je vais y présenter une image, il va être en mesure de dire si c'est un chat, un chien, avec une probabilité. Il y a toujours une probabilité dans la chose. On n'est jamais sûr à 100% que c'est un chat ou un chien. Non, il va dire, je pense que c'est un chat à 98% ou à 95%. Et c'est là qu'on décide, les systèmes vont décider de dire, je le présente ou je ne le présente pas, essentiellement. Mais ce que ça fait, c'est que ça mime ce qu'on a dans les données. Si j'ai donné 1000 images de chat et je lui demande de prédire une image de chien, il ne sera pas capable parce qu'il connaît des images de chat. Donc, il mime exactement ce qu'il a trouvé dans ses données. Aujourd'hui, puis je fais simple parce qu'il y a des modèles qui sont capables de générer, mais essentiellement, c'est ce que ça fait le deep learning, ça prend les données. Ça se faisait aussi avec des statistiques de base, avec la régression logistique ou avec la régression linéaire anciennement, mm-hmm. mais ça le fait avec de la précision beaucoup plus forte. Puis c'est pour ça qu'on est arrivé à être capable avec ImageNet, entre autres, qui est un ensemble de données qui était créé par des chercheurs et où il y avait des compétitions par-dessus ça, puis que là, la recherche a monté et on a été capable d'avoir les succès qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, puis pourquoi on en parle aussi fort aujourd'hui, c'est à cause de l'apprentissage profond. Ceci dit, quand on veut définir l'intelligence artificielle au sens large, parce que si on rencontre plein de gens, là, plein de compagnies vont te dire ils font de l'IA, bien, puis pourquoi on en parle autant à Montréal, essentiellement on en parle au niveau mondial, c'est qu'à Montréal, on a la plus grande concentration de chercheurs en recherche opérationnelle. Et la recherche opérationnelle est très, très proche de... C'est des modèles prédictifs aussi comme on a avec le deep learning. Et on a cette plus grande concentration de chercheurs, on est numéro un au monde, pas depuis hier, depuis 35 ans. Mais c'est un secret bien gardé qui n'était pas publicisé jusqu'à l'avènement de tout ça. Donc, aujourd'hui...
Tu as d'ailleurs dit, le 1er mars 2018, le Québec est en voie de devenir la Silicon Valley de l'IA. C'est ici que l'on recense dans le monde la plus grande concentration d'experts en recherche opérationnelle, soit un peu plus de 1000 chercheurs.
Oui. En fait, je me suis peut-être excité quand que j'ai dit cette chose-là, mais on est quand même en recherche professionnelle des numéros un, et on est plus que ça, on a l'un des chercheurs qui a créé les premiers algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond, qui est Joshua Bengio. Qui est du département, qui était du département d'informatique, qui est du MILA aujourd'hui, là, quand on parle. Donc, on avait un beau cocktail qui était super intéressant. Donc, la plus grande concentration de chercheurs en recherche professionnelle, avec un des pairs qui a découvert ou qui a vraiment lancé ces techniques-là d'intelligence artificielle.
Pour ceux qui ne le savent pas, Joshua Bengio, il est à l'IRO d'ailleurs.
Il était au DIRO. Ouais, il était au DIRO. Et maintenant, il est comme les gens, son laboratoire vient de sortir de l'université et devient MILA, là, qui est dans le MILEX maintenant.
Il était Master of Science and PhD de McGill et post-doctorat au MIT et au Bell Labs là, des
TNT. On a une superstar, puis tout le monde le connaît, là, qui est à Montréal.
Donc, on a l'intelligence artificielle qui est très présente ici, et maintenant, on a Hirosoft qui a une solution Hirosoft juridique. On fait comment pour mettre l'intelligence artificielle au service du droit? Qu'est-ce que ça prend aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait dire apprentissage profond, on feed à un ordinateur toutes les décisions en vis caché qu'il y a, et un ordinateur pourrait prédire en regardant les procédures si oui, c'est un vis caché qui existe. Est-ce que ça se peut?
J'entends souvent des scénarios comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas si ça se peut. Je sais qu'il y a des gens qui prétendent bien des choses qu'on peut faire avec l'IA. Et je pense qu'on a mélangé des fois la science-fiction puis la réalité. Là. Et dans le monde du texte, il y a eu des grandes avancées au niveau de la traduction. Si vous allez voir sur Google
Translate,
ou encore aller voir DeepL, qui est deepl.com, qui est un engin de traduction. C'est des Anglais, je pense, qui ont fait ça, qui est vraiment bon, là aussi. Mais essentiellement, pour répondre à ta question, simplement, je vais répondre par des exemples que nous, on fait. OK? Parce que, est-ce que de lire une loi et de proposer des suggestions de modification aux lois, c'est de l'IA? Je pourrais bien dire que c'est de l'IA, c'est du traitement automatique des langues naturelles, ça fonctionne bien, puis ça fait une bonne job. Est-ce qu'on est capable de... On est capable aujourd'hui, on a développé un modèle qui est capable de faire du droit comparé. Par exemple, un des exemples, on s'est classé avec le gouvernement canadien pour justice et intelligence artificielle dans un shortlist, là, puis on était très fiers parce qu'on se classait parmi les Accenture, les IBM, les SAS, les gros tout le monde. Les grandes entreprises. Mais l'idée, le modèle qu'on a fait, c'est un modèle qui est capable de dire, par exemple, on prenait, je donne un exemple, le règlement sur le sirop d'érable au gouvernement canadien. Et on prenait le règlement sur les aliments ici. Puis ce qu'on essayait de faire, c'est essentiellement d'être capable de dire, y a-t-il des alinéas, y a-t-il des paragraphes, y a-t-il des articles qui sont similaires dans les deux? On comprend qu'il y en a un qui est inclus dans l'autre, là, essentiellement, et être capable de donner un outil aux avocats qui vont être capables de repérer rapidement à l'intérieur d'un texte comme ça, d'un texte réglementaire, ce que fait l'autre juridiction par rapport à notre juridiction, essentiellement. C'est très les recherchistes, les légistes utilisent beaucoup ça là, lorsqu'ils conçoivent des projets de loi, à les voir en Australie, à ce qui se fait ailleurs. Bon, ce qu'on a fait, on a repris ça, puis là, on a dit, on va essayer de comparer des contrats qui ont été écrits par deux avocats différents, qui n'ont pas utilisé les mêmes mots, mais qu'on va essayer de comparer les clauses. Je donne un exemple. Vous avez un contrat de non-divulgation que vous m'envoyez. Mettons, Hugo, là, tu m'envoies ton contrat de ton NDA. Tu me l'envoies à moi. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis, puis j'envoie ça à mes gens qui regardent les contrats, puis je dis, bien, par rapport à ce qu'on a, notre NDA, à nous autres, c'est quoi les clauses qui nous envoient de plus puis les clauses qui n'a pas mis? Mm-hmm. Bien là, on est capable de faire un matching de clauses, même s'ils n'ont pas été écrits entre eux autres. On est dans le domaine de l'assurance. On fait la même chose dans le domaine de l'assurance. Donc, on est en train... Ça, c'est des choses concrètes qui fonctionnent aujourd'hui. À savoir maintenant...
Est-ce que tu me dis que c'est pas de l'intelligence artificielle?
Dans ce contexte-là, oui. Okay. Ça l'est. Dans ce contexte-là, c'est plus que ça. C'est du NLP, c'est du traitement automatique des langues naturelles. C'est de la recherche opérationnelle. Il y a des algorithmes de recherche opérationnelle qui sont à l'intérieur. Puis, il y a des algorithmes d'apprentissage profond qui sont à l'intérieur de ça.
NLP, Natural Language Processing.
Ce qui est la même chose que TALN. C'est traitement automatique des langues naturelles ou NLP qu'on dit en anglais.
Parfait. Et donc, c'est un frein, l'intelligence artificielle, ou c'est un plus, l'intelligence artificielle?
Pour le monde du droit?
Oui. Je sais que tu as déjà dit récemment que l'un des freins actuels à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et juridique est la protection des renseignements personnels. Ouais. Donc là, on tourne toujours en rond, puis moi, je dis toujours que je pense que c'est une fausse... je pense que c'est un faux idéal, la protection des renseignements personnels, parce que il y en a plus. Notre téléphone sait où on est toujours, donc ouais. Rogers le sait toujours. Mastercard sait tout ce que je dépense. Ma banque sait où je suis et on peut faire un lien avec tout ça. Et même si tout ça était anonymisé, au bout de la ligne, on sait que c'est Hugo Martin qui s'est déplacé d'un endroit à l'autre parce que j'ai utilisé Google Maps et tout ça.
Parce qu'on a accepté trop. On a accepté trop sur notre téléphone ou on a accepté trop quand on était sur un site web pour dire j'accepte. Tu sais, quand ils nous posent le consentement, là, on dit j'accepte. Puis là, ils collectent plein d'informations.
Le frein, essentiellement,
c'est que les gouvernements vont réglementer. Ils vont, avec le GDPR, entre autres, le règlement européen, ils viennent réglementer, dire fais attention avec la donnée, avec quoi tu fais. Il y a des compagnies qui ont déjà tout collecté, donc il n'y en a pas de problème pour eux autres. Ils ont déjà toutes les... Quand on pense aux GAFA, là, ils ont pas mal déjà ramassé l'information qu'ils ont besoin. Mais le frein, c'est dans le sens que ça prend de la donnée pour développer des modèles. Le modèle comme tel, je vous dirais, c'est assez... C'est pas simple. Mais c'est les chercheurs, là, ils ont besoin de données pour pouvoir développer des modèles. Puis si les données ne sont pas accessibles, on a un problème.
Donc, on court après notre queue. Je veux dire, on ne veut pas donner nos renseignements personnels. Tu viens de nous dire, Alain Lavoie, qu'on a trop accepté, mais pour pouvoir développer ton domaine, il faudrait donner encore plus d'informations.
Ben, donne un exemple. Si on était... tous les examens qu'on fait dans les hôpitaux, c'est pas facile là, pour eux là, dire là, moi là, mettons que je veux avoir accès à toutes les analyses qui ont été faites dans le sang par exemple, et pouvoir essayer de développer un modèle qui va être capable de détecter des choses plus rapidement qu'on le faisait avant. Juste d'avoir accès aux données, c'est pas facile d'avoir accès à ces données-là, parce que est-ce que c'est le sang de Hugo Martin ou c'est le sang d'Alain Lavoie, ces choses-là, est-ce qu'on a trouvé des... Puis comment on va la gérer, la donnée, parce que c'est toute la question de gérer la donnée qui est le problème. Et là, les compagnies, les organisations, bien, ils sont là, puis ils disent, on sait pas trop quoi faire, puis on veut pas se mettre dans le pétrin par rapport à ça. Je donne un exemple, une compagnie d'assurance... Je peux bien prédire comment l'actuaire devrait, on fait pas ça, mais comment l'actuaire pourrait donner une prime, par exemple, pour une assurance vie. Mais si il est obligé de tout me donner les données de la compagnie, il vient de me donner son back office, là, il vient de me donner. Donc, les dirigeants sont là, puis ils disent, attends, là, moi, je te donne toute l'information, qu'est-ce que tu vas faire avec mon information, et ainsi de suite. On tombe pas juste dans la protection des renseignements personnels, mais dans la protection des renseignements, point. Là. Les gens ont peur de donner leurs données. Ce qu'on voit de plus en plus arriver, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec mes données? Probablement mes données, parce qu'ils ont entendu dans des conférences que les données, c'est le nouveau pétrole. Donc, quand ils entendent que c'est le nouveau pétrole, bien, ils disent, bien, moi, j'ai des clients qui disent, bien, comment on peut délier ça là, ensemble? Là, parce que mes données peuvent être utiles pour toi. Les gens se réveillent. Depuis un an, là, les gens se réveillent. C'est correct. Mais en même temps, la donnée, on peut des fois rien faire. Des fois, on peut faire de quoi? Ça, c'est le grand enjeu d'un autre des freins. Là, c'est l'adoption, l'adhésion, le dérisquage d'un projet. Quand on est avec un client, on amène, à un moment donné, on veut faire une preuve de concept, bien, il nous demande la question qui arrive souvent, c'est quoi les chances que ça marche? Et la réponse est à peu près tout le temps, je le sais pas. Ça, on va regarder tes données, on va regarder si sont correctes tes données, si sont malléables, sont clean, comme on dit en anglais, qui sont propres, et que là, on va voir si ça va donner. Puis là, ben, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des clients qui vont décider de passer, puis il y a des clients qui vont décider de dire « Non, j'arrête là, parce que je n'irai pas mettre un montant de 50 000, 100 000 $ pour faire une preuve de concept, sachant que ça ne me donnera rien. » Et ça, c'est le grand enjeu qu'on va avoir pour faire atterrir véritablement l'intelligence artificielle dans toutes les organisations à travers le monde et au Québec. Les grands joueurs qui sont à risque, tu sais, tu es une compagnie A puis une compagnie B, puis c'est les compétiteurs, puis qui ont beaucoup d'argent, puis ils vont dire « Bien, j'y vais parce que je veux me positionner par rapport à mon compétiteur, eux vont le faire. Mais les petits joueurs, les PME, par exemple, au Québec, qui voudraient se démarquer parce qu'on a l'épicentre, on dit qu'on a l'épicentre de l'intelligence artificielle, bon, mais qui voudraient se démarquer, bien, pour dérisquer, ils ont de la misère. Ils ont de la misère à sauter. Ils entendent beaucoup parler. On va beaucoup dans des conférences, on entend beaucoup parler, mais des projets là, qui lèvent, il y en a moins qu'on pourrait penser.
On va prendre une petite pause. Nous sommes avec Alain Lavoie, président, cofondateur de la société Irosoft, expert en technologie documentaire. Après la pause, Alain Lavoie, on va te demander de nous faire rêver un peu et peut-être aussi de voir si l'intelligence artificielle va remplacer les avocats et les juges dans des salles de cour. Nous sommes de retour avec Alain Lavoie, cofondateur d'Irosoft. On parle d'intelligence artificielle. Et maintenant, Alain, je ne sais pas si tu vas nous faire rêver, je ne sais pas si tu vas nous faire suer, je ne sais pas si on va avoir peur, je ne sais pas si tu vas nous faire branler ta baguette magique et pour nous dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire pour remplacer peut-être les avocats, les juges, ça va peut-être légiférer pour nous. Où on s'en va? C'est où on rêve? Vers quoi on s'en va, Alain Lavoie?
Bon, ben, je ne possède pas la vérité, là, essentiellement dans ce milieu-là. Mais si j'étais à votre place, je changerais de job. Non, c'est une blague. Est-ce que l'intelligence artificielle va commencer à s'imprégner là, dans le métier, dans la dans le domaine du droit. On va le voir arriver comme on l'a depuis des années, là, dans la recherche d'informations. On va avoir des outils qui vont permettre de rechercher plus facilement pour les avocats, trouver des choses.
Mais on a 15 ans d'avancement déjà là-dedans. Là. Donc, la recherche par mots-clés, par langage naturel,
oui,
tout ça.
Mais on va aller un peu plus loin. Là. Comme je disais tantôt, là, par exemple, être capable de comparer deux contrats qui ont été écrits par deux avocats différents, c'est des choses qui vont être plus possibles dans le futur. Essentiellement, ce qui n'était pas possible avant, ou était très peu possible. D'être capable de dire, il n'y a pas les mêmes mots, mais qu'on puisse dire que c'est à peu près les mêmes clauses qui ont été écrites. C'était moins facile d'avoir ça. On va voir arriver ça. La prédiction, à savoir, on entend parler souvent, là, il y a des compagnies qui le font, qui prétendent qu'ils le font, de prédire l'issue d'un procès. Peut-être dans certains cas, on va pouvoir y arriver. Mais encore une fois, je vais donner l'exemple simple. Si on veut prédire, je ne sais pas, on va donner ce que moi j'en comprends. Si on sait que tel juge prend toujours la partie défendresse, essentiellement, c'est quand on analyse tous ces jugements, bien, il y a 80% des cas qui c'est la partie défendresse qui gagne, bien, on peut faire, ça ne sera pas de la grande intelligence artificielle, mais on pourrait faire un guess en disant, bien, à 80% des chances de gagner ou pas gagner, puis dire qu'on va prédire l'issue d'un procès, juste sur la base d'une variable seulement. Bon, on essaie d'aller plus loin, on essaie de faire la compréhension de texte, parce que pour y arriver, il va falloir être en mesure de comprendre le texte. Moi, une des choses que j'aimerais faire depuis 20 ans, que c'est pas une obsession, mais que c'est un sujet de recherche, c'est d'être capable de dire, quand il y a un jugement qui sort, est-ce que ce jugement-là va faire jurisprudence? Donc, et ça, j'aimerais qu'on soit capable de concevoir un algorithme qui serait capable de dire ça. C'est très complexe, parce que, vous le savez, ça peut être seulement un paragraphe du jugement qui va faire que ça va être jurisprudence, puis le lendemain, il peut sortir un jugement équivalent qui ne fera pas jurisprudence parce que le précédent est sorti avant. Donc, c'est très complexe. Est-ce que l'IA va permettre de faire ces choses-là? Je ne sais pas. Mais c'est des choses qu'on pourrait se permettre de rêver éventuellement, mais on est loin parce que, comme je vous ai dit, là, en ce moment, beaucoup de choses ont été faites au niveau de la reconnaissance des images, des objets des images. Puis je pense principalement à l'apprentissage profond pour pouvoir parler des choses. Donc, beaucoup de choses ont été faites par rapport à la reconnaissance d'images, d'objets dans des images. Reconnaissance de la voix, être capable de prendre de la voix puis être capable de l'interpréter. Traduction. Mais il reste encore beaucoup de recherches à faire pour être capable de faire de l'interprétation sémantique correctement au niveau du droit à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais il reste beaucoup. La recherche est probablement moins évoluée que d'être capable de reconnaître des objets et savoir qu'on va foncer dans un objet plutôt que d'un autre pour les voitures autonomes, par exemple.
Est-ce que standardiser... parce que nous autres, en droit, les avocats, on est bons là-dedans de standardiser tout. Est-ce que standardiser les procédures, donc c'est-à-dire utiliser les mêmes mots dans le même ordre, lorsqu'on est dans un sujet, je ne sais pas, en fiscal ou en vice caché ou quoi que ce soit, toujours faire ça, est-ce que ça pourrait aider au modèle? Ou,
ah, bien sûr.
Est-ce qu'on pourrait forcer les avocats à dire, bon, mais maintenant, vous, les trois premiers paragraphes, c'est la mise en situation. Ensuite de ça, les trois paragraphes suivants, c'est la législation qui s'applique. Et les trois paragraphes suivants, ça serait le dommage causé par la personne, et l'autre, ça serait la faute, et ensuite de ça, disons, le lien de causalité si on parle d'un dossier de dommage. Est-ce qu'on pourrait faire ça comme ça, puis dire, à partir de ce moment-là,
on va essayer d'apprendre des cas similaires, puis on serait capable de faire des prédictions par rapport à certaines choses. Pourquoi pas? Oui, ça pourrait être possible de le faire. Plus les données vont être structurées, plus les données vont être propres, comme on dit, plus ça va être facile de faire de la prédiction par rapport à ça. Mais je ne suis pas un expert du droit, puis je veux faire attention pour ne pas m'immiscer. Je sais quand même qu'il y a des belles initiatives, là, puis c'est public. Là, essentiellement, le directeur général de la SOCI, j'ai parlé dans une conférence dernièrement par rapport à être capable d'avoir un projet d'IA avec le... j'ai clarity, là, mais le langage clair. Mm-hmm. Avec le langage clair, essentiellement, de voir comment on pourrait démocratiser le droit à l'aide de l'IA. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, puis il y a des choses très potentielles qui pourraient se faire dans ce contexte-là. Moi, je pense qu'il va y avoir, mais il ne faut pas s'attendre. Faut pas s'attendre à des grands pas rapides. Il va y avoir des petits pas. Ils vont être rapides aussi. Mais qui peut prédire ce que va être les technologies de l'information dans 3 ans? Ça va tellement vite. Et il y a une chose importante qu'il faut comprendre. C'est le milieu de la recherche au niveau de l'IA. Quand on regarde la recherche fondamentale, essentiellement, ce qui s'est passé... C'est que, premièrement, les chercheurs ont mis à leur disposition pour faire de la recherche des données. Deux, dans le milieu de la recherche, quand on publie un algorithme, OK, en général... Quand les chercheurs publient dans tous les domaines universitaires, là, quand ils publient, on lit l'article, puis les pairs regardent ça, puis ils disent, ben oui, ça fait du sens, mais pour reproduire les résultats, c'est souvent compliqué. Dans le domaine de l'IA, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand ils publient, en général, ils vont publier les données et l'algorithme qui a produit le résultat.
Okay.
Ce qui fait que des compagnies, des organisations aujourd'hui peuvent avoir accès à la recherche qui a été publiée il y a 2 semaines et reproduire les résultats avec des données parce qu'ils ont publié. Et ça fait qu'il y a un enchaînement, là, parce qu'à cause qu'on met les données, qu'on met les algorithmes, bien, les chercheurs peuvent avancer beaucoup plus rapidement parce qu'anciennement, moi, quand je faisais de la recherche à l'université, on regardait l'algorithme, il disait, ah, j'ai obtenu 90%, OK, on essayait de figurer comment faire l'algorithme exactement, on n'arrivait pas à arriver au même résultat, on essayait de comprendre. Là, aujourd'hui, on peut les reproduire très rapidement, ces résultats-là, et ce qui fait que les chercheurs, entre eux autres, bien, ils font évoluer la recherche très rapidement. Puis là, il y a un engouement en plus. Fait que ça risque d'évoluer très, très rapidement dans les prochaines années. Pour ça que je vous dis, on peut penser à plein d'évolutions, comme on peut tomber sur des plateaux. Mais je ne suis pas l'expert. Il faudrait poser la question.
Est-ce que le juridique est dans la ligne de mire d'autres compagnies qui reçoivent ou...
Ah ben oui, oui, il y a des legal tech, on voit des regroupements de legal tech qui s'organisent à travers le monde. On le voit à Montréal, il y en a des compagnies qui vont œuvrer dans ce milieu-là pour essayer de développer des systèmes pour les avocats, pour la pratique, pour la recherche d'informations. Il y a un peu partout. Un de ceux qu'on a entendu beaucoup parler, c'est BlueJay puis Russ Intelligence qui sont des compagnies qui sont des startups puis qui sont des succès en ce moment, des succès qu'on entend beaucoup parler dans le milieu. Mais sont encore dans le monde de la recherche d'information, dans le cas de Russ Intelligence, dans la recherche d'information. Et ça c'est proche de notre domaine à nous, essentiellement.
OK. Et est-ce que extraire des données, c'est la même chose que de comprendre une donnée? Disons si on parle du projet Odin, disons...
C'est pas la même chose. Okay. Puis je prendrais... Ma mère, elle avait un implant cochléaire avant de décéder. Je disais aux gens souvent, ma mère s'est mise à réentendre à l'âge de 82 ans dans sa vie. Et il y a une différence entre entendre et comprendre. Donc, on peut entendre du japonais, mais rien comprendre. L'extraction de l'information, c'est d'aller cibler de l'information très, très précise. Je vais aller chercher le chiffre d'affaires dans un état financier. Je vais aller chercher la dette. Je vais aller chercher de ces informations. Donc, pour ça, ben, nous, on doit s'accrocher sur du texte, être capable de comprendre au niveau sémantique certaines choses. Mais est-ce que je peux en faire une interprétation, par exemple, juridique, mm-hmm. ou actuarielle? C'est une autre chose. Donc, il faut juste faire attention. Ce que nous, on se, avec Odin, Odin, c'est notre plateforme, qui se, on se positionne un peu comme, comme Watson d'IBM, mais très, très, très ciblé pour lire des documents. Par exemple, on lit des contrats d'assurance. On va aller extraire dans des contrats d'assurance près de 400-600 paramètres dans des contrats d'assurance. On est en train de développer pour lire des états financiers. Mais on n'interprète pas nécessairement l'information qu'un juriste pourrait faire. Ça, c'est notre domaine. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre interpréter et extraire? Oui, il y a une très grande différence parce que c'est beaucoup plus cérébral. L'autre chose qu'il faudrait dire aussi, l'intelligence artificielle, si vous êtes capable de... Vous avez un processus quelconque, OK? On lit un document, puis vous avez un processus d'identifier, par exemple, de quoi dans le document qui prend une fraction de seconde. Ça, c'est propice à être bien traité avec l'intelligence artificielle. Par exemple, je suis dans un document, puis j'essaye rapidement de sortir les nombres qu'il y a, ou les noms de personnes, ou des choses de même. Ça, c'est propice. Si on a un travail intellectuel à faire, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, l'intelligence artificielle risque d'avoir à faire plus de choses. Donc, quand vous regardez des processus que vous avez dans vos organisations, les gens, puis on est là, puis on dit, bien, si ça prend une fraction, c'est clérical ou des choses de même, tu sais, ça peut aller très bien pour automatiser, pour aller extraire l'information. Quand c'est plus long, bien, essentiellement, tu sais, pour interpréter si la clause, elle est problématique ou pas problématique, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de faire ça avec...
On a un client qui reçoit une procédure introductive d'instance, il se fait poursuivre, est-ce que ce serait possible de vider la demande introductive d'instance dans un ordinateur et l'ordinateur pourrait nous dire toutes les lois applicables ou s'il y a des jurisprudences ou des jugements, des décisions qui ont été rendues qui traitent des mêmes choses?
Oui, ça c'est on est en recherche d'informations. Donc, on est en recherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme... On va prendre la requête, on va prendre des mots à l'intérieur de ça, de cette requête-là. On va essayer regarder dans notre corpus de documents des lois, des règlements ou des jugements, être capable de reconnaître des informations à l'intérieur de ça. Et on peut, après ça, aller voir la législation citée. On peut prendre le numéro de greffe du jugement pour savoir que c'est en droit de la jeunesse plutôt que dans un autre sorte de droit. Il y a plein de trucs qui est possible de faire à ce niveau.
Et là, on peut recevoir ça. On peut fider ça à l'ordinateur et à l'intérieur de quelques secondes, on a jurisprudence, cause semblable, législation applicable.
Là, Hugo, il faut se ramener, là, puis... Faut se ramener aux requêtes en langage naturel aussi. Rappelons-nous de ça, là, où on posait une question. Le monde juridique est habitué, avec les grands joueurs, à avoir des engins de recherche booléens. Donc, on voulait... Puis nous, ce qu'on a toujours perçu, c'est que un avocat voulait plus de bruit que de silence. Donc, quand on fait une requête, on veut avoir tous les jugements. On ne veut pas qu'il en oublie quelques-uns. Quand on rentre dans le langage naturel, c'est l'algorithme qui va décider ce qu'il va montrer par rapport à ce que tu as mis comme requête en langage naturel. Je cherche tous tes jugements qui ont telle chose, puis lui, il va interpréter ta requête en langage naturel, puis le faire. Mais ça existe depuis longtemps, le langage naturel, essentiellement. Donc, la question, là, on dit, on va un peu plus loin avec l'IA, on dit, est-ce qu'on peut améliorer cette chose-là?
Je veux pas faire de recherche, je veux prendre le document et sors-moi tout ce qui est en relation avec ça.
Ouais. Sincèrement, là, je crois pas à ça. Moi, là, je mettrais pas ma main dans le feu, dire l'avocat, va avec ça, là, puis ça va marcher tout le temps. Il faut qu'un avocat, un recherchiste, soit en mesure de continuer à valider. Puis là, ben, il va prendre confiance en l'IA. L'IA va sortir un document qui pense qu'il est pertinent pour toi, avec une probabilité. Mais il peut se tromper, là. C'est sûr qu'il peut se tromper, là.
Donc, on est loin du... on donne une action à l'ordinateur, une demande introductive d'instance. Quelqu'un rédige la défense. On envoie aussi la défense à l'ordinateur et l'ordinateur nous donne la décision. On est loin de ça.
T'écoutes pas mal de films de science-fiction, puis je me demande si tu n'as pas commencé à utiliser la loi de M. Trudeau.
On va revenir rapidement.
Je veux quand même faire une petite parenthèse.
Je t'en prie.
Il y a quand même des cas particuliers qu'on va pouvoir le faire. Il va falloir commencer, tu sais, dans des cas, là, des cas simples, là.
Mais parce que tu
des
comprends.
Cas simples, tu sais, des cas là où on a un petit litige, puis c'est par rapport à 5 ou 6 articles qu'on doit toujours être là. Je suis persuadé qu'il y a de quoi à faire, là.
Parce qu'on n'a pas le problème d'anonymité, c'est public.
Oui, tout à fait.
Les preuves, les pièces, sont tout ça est public, donc on n'a pas le problème de donner
le laboratoire cyberjustice travaille sur des projets comme ça, à essayer de voir dans des cas très, très particuliers, puis je pense très sincèrement qu'on peut voir arriver des résultats, mais ça va être des cas simples. C'est pas encore une fois, là, ce que je disais tantôt, il faut que ça soit relativement simple à prendre la décision. Il faut pas qu'il y ait un travail intellectuel de dire « on a toutes les chances de gagner, pas des chances de gagner ». Je pense pas que ça va fonctionner dans ce contexte-là. Aujourd'hui, encore là, je suis pas un spécialiste du droit, je suis un spécialiste en technologie de l'information et dans le traitement automatique des langues. De là à dire qu'on peut donner ça aujourd'hui, on s'en reparlera dans 2 ans.
Parfait. On va t'inviter dans 2 ans. C'est le fun de voir le mathématicien qui parle de disclaimer et non pas l'avocat qui dit non, let's go, on y va, on fie de l'information et on va avoir une décision automatique. Si on s'en va au niveau des mises en garde, récemment, on a publié la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. C'est quoi développer de façon responsable l'intelligence artificielle, Alain Lavoie?
Moi, je trouve cette déclaration de Montréal-là, c'est une initiative que je pense que Montréal peut devenir un joueur important sur la planète là, par rapport à ça, et le Québec. Ils appellent ça AI for Good, je pense en anglais. Là, c'est l'IA pour l'humanité. Là, et je pense essentiellement que c'est de faire de l'intelligence artificielle qui va améliorer le sort des humains. Principalement, il y a un paquet de règles, là, essentiellement, qui a été mis dans la déclaration. Mais puis bonhomme à l'an, si on veut vulgariser en quelques phrases, on ne fait pas ça pour nuire à l'humanité. Mais en même temps, il va y en avoir qui vont le faire aussi, puis il faut qu'ils vont essayer d'utiliser ça à mauvais escient. Je pense qu'il faut apprendre aussi de... Dans les années 90, il y a toute l'histoire du clonage. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Dali. Qui est morte après 3 ans, je pense, quelque chose comme ça.
Mais qu'on a eu à se poser des questions semblables à cette époque-là pour se dire, ben regarde, on va-tu cloner des humains? Puis il y a eu une régulation qui s'est faite au niveau planétaire par rapport à ça.
Il y a un chercheur chinois récemment qui a modifié le gène, semble-t-il, ou c'est lui qui dit ça, de 2 jumeaux qui sont nés en Chine afin qu'ils soient immunisés au virus du VIH. Donc, on s'en va vers ça. Je sais pas si c'est exactement l'intelligence artificielle, mais il y a clairement une question éthique, tout à fait.
J'essayais juste de faire la relation entre les deux, parce qu'on a fait une réflexion à ce moment-là, puis il faut faire une réflexion aujourd'hui. Je suis content qu'il y ait du monde, dès maintenant, qui fasse vraiment, qui dise, qui lève la main, puis dise, faisons attention. En même temps, tu sais,
faut pas mettre un frein non plus au développement.
Ben, par exemple, est-ce qu'on va faire des robots qui vont décider s'ils tuent ou tuent pas? On va-tu faire d'intelligence artificielle qui va décider quand on est en fin de vie si on continue à prodiguer les soins ou pas? C'est des choses comme ça, là. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des chercheurs qui commencent à travailler sur des choses comme ça? En même temps, on peut bien faire des robots tueurs qui utilisent l'intelligence artificielle, mais on va peut-être faire de quoi en armée qui va être contre ces robots tueurs-là. En tout cas, c'est, c'est, il y a des grandes réflexions à faire. J'ai pas, je suis loin d'avoir les réponses, mais il faut avoir une sensibilité à ça. Moi, je me rappelle dans les années 90, quand on a démarré la compagnie, on s'était fait approcher par une compagnie qui faisait des... c'est très personnel, là, c'est une décision très personnelle qu'on a prise, qui faisait des sites porno. Puis qui voulait qu'on les aide à améliorer leur site porno. Puis c'est un choix de compagnie. On a dit non, ça ne nous intéresse pas de faire ces choses-là. Mais il y a du monde qui ont probablement accepté puis qui l'ont fait. Mais c'est des choix personnels. Mais c'est ça qu'il faut avoir. Il faut avoir la sensibilité de dire j'embarque pas à tout prix là-dedans dans l'IA. On peut faire. Puis moi, dans mon cas, moi je vous dirais, là, puis je vais donner un exemple d'une belle compagnie. Puis on a une belle compagnie, nous, mais. J'ai regardé un de mes amis qui est une compagnie qui s'appelle Humanware, qui est à Drummondville. Oui. Et Gilles Pépin, qui est le président de la compagnie, eux, ils font des systèmes pour aider les personnes non-voyantes à travailler, à être à pouvoir, au niveau social, les aider.
Oui, ils ont d'ailleurs travaillé avec Stevie Wonder, c'est ce que je comprends.
Entre autres, puis, tu sais, j'aurais aimé que ma compagnie soit comme ça parce qu'on fait du bien aux gens. On est dans un autre extrême, là, probablement, oui. mais tu sais, en informatique, ben, malheureusement, on était longtemps, les gens nous voient un peu comme comment on peut couper des coûts dans une organisation, puis on touche les... Tu sais, on aimerait ça que nos outils puissent aider. Tu sais, souvent, je dis aux gens, ben non, tu couperas pas le monde nécessairement, mais tu pourrais les utiliser à bon escient pour faire d'autres choses. Mais c'est pas toujours évident. Donc, quand je reviens à l'IA, on peut choisir aussi dans l'IA sur quel type de projet qu'on va travailler. On viendrait me demander de travailler sur des projets de type robot tueur. Je pense pas, puis ça c'est extrême encore, mais je pense pas que j'embarquerais pas dans un projet comme ça.
Mais au niveau des robots tueurs, si tu m'as donné un petit... ça a allumé quelque chose à l'intérieur de moi. En 2003, le philosophe Nick Bostrom a rédigé un livre qui s'appelle « Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence ». Donc on parle de 2003. Déjà, on parlait d'éthique et tout ça. Et le problème du robot tueur peut venir tout simplement avec des robots qui sont programmés pour maximiser quelque chose. L'exemple qui avait été donné, c'était un robot qui fait des trombones, des paperclips. Et c'est un robot et une intelligence artificielle qui est maximisée pour ça. Donc, elle va commencer à créer des paperclips, puis le plus possible de paperclips et de paperclips et des trombones. À un moment donné, il dit, bon, mais là, j'ai plus de métal. Donc, on va créer quelque chose pour miner. On va aller chercher le plus de métal possible. Ensuite de ça, il dit, mais là, il me reste presque plus de fer et la terre au complet, j'ai pris toute l'énergie pour faire mes trombones et j'ai plus de fer. Il dit, ah, mais là, il y a du fer dans le sang des humains. Alors, on va aller chercher le fer dans le sang des humains. Donc, la limite à la question éthique et le faire du bien à l'intelligence artificielle tient moins du fait de qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire plutôt que qu'est-ce qu'on demande à l'intelligence artificielle de faire et voir une étape plus loin. Là, quand on parle de recherche à l'intérieur de documents, je pense qu'Alain, ça a un petit peu moins d'impact que l'exemple que je viens de donner. Et si on s'arrête à y penser, un robot tueur, c'est peut-être aussi une voiture qui se conduit seule.
Ah, tout à fait. Mais il faut qu'il y ait des groupes, puis c'est pour ça que je pense qu'à Montréal, on est en train de se positionner comme un joueur mondial au niveau de cette niche-là, l'éthique essentiellement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait du monde qui puisse réfléchir à ça, puis qui puisse influencer les gouvernements à légiférer dans ce sens. Qu'on se fasse pas, que ce soit pas un zoo, notre affaire, là, que ce soit que tout le monde fait n'importe quoi là-dedans. Il faut légiférer à l'intérieur de ça pour s'assurer qu'on le fait correctement, là. Mais je suis pas un expert non plus de ça, mais je suis content de voir qu'il y a du monde qui s'organise alentour de ça, puis que ça pogne.
En tout cas, je sais où le gouvernement pourrait aller chercher le bon outil pour légiférer dans cette...
on pourrait faire du droit comparé, ça c'est clair, ça c'est clair.
Merci Alain Lavoie. Avant de nous quitter, Alain, tout d'abord, je tiens à te remercier d'être notre premier invité à Question de preuve. Et avant de se quitter, parle-moi de tes projets professionnels à venir. Dis-nous où on peut te rejoindre, les réseaux sociaux, sur le site web d'Irosoft.com. Mais qu'est-ce qui s'en vient là, pour Irosoft dans l'immédiat?
Ah, écoutez, on est en train, on prend la tangente en ce moment où tout ce qu'on a fait dans le monde juridique, on est en train de l'adapter dans d'autres domaines. Donc, et toujours dans le même contexte, dans le contexte des contrats, dans le contexte de documents qui sont plutôt des documents d'audit ou des documents juridiques qui peuvent être utiles, et d'aller voir dans différents domaines. Donc là, on est en train d'ouvrir des pratiques dans le domaine de la santé, dans le domaine manufacturier, dans le domaine de l'aéronautique, assurance bancaire aussi qu'on a essentiellement. Donc, on essaie d'aller voir les processus qui sont des processus où il pourrait avoir beaucoup de gains avec nos technologies à l'intérieur de ces organisations-là. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait. La plateforme Odin, qui est une des plateformes qu'on a lancées dans le cadre de FinTech. Puis un des projets qui est un petit peu qui avance. On voulait aller plus vite, mais on a l'intention, on aimerait en fait développer une plateforme une plateforme infonuagique qui permettrait à toutes les municipalités du Québec, par exemple, de pouvoir collaborer entre elles dans un contexte pour gérer leur règlement. Et pourquoi refaire le règlement des animaux dangereux quand ton collègue d'une autre municipalité l'a déjà fait? Donc, pourquoi pas réutiliser la mémoire de rédaction, la mémoire qui a été faite par rapport à ça, et de collaborer entre les municipalités. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de parler à différentes villes pour faire un projet pilote à l'intérieur de ça, et de faire, ajouter de l'IA à l'intérieur de ça. On est dans notre cour, on s'obstine avec notre voisin sur la hauteur de la haie, puis là, ça monte en escalade, mais si on était capable de prendre notre téléphone puis poser la question, c'est quoi le règlement de la haie qui s'adresse ici, puis qui nous dit, c'est 5 pieds ou c'est 6 pieds, puis que tout de suite, on est capable de lui donner.
La hauteur des yeux, Alain, pour ne pas voir ton voisin. Un coup que c'est passé, la hauteur des yeux, t'es correct.
Mais c'est ce type de projet-là qu'on s'enligne essentiellement pour essayer. J'aimerais ça voir arriver ça en 2019-2020, essentiellement un projet de sens-là. Puis il faut travailler avec des partenaires, avec des vices. Donc, s'il y en a des gens qui sont avocats, qui travaillent dans des greffes ou dans des contentieux, ça serait intéressant. Vous pouvez nous rejoindre, évidemment, chez www.irosoft.com. Mon adresse de courriel, c'est lavoie@irosoft.com. Et si vous voulez, vous pouvez me téléphoner directement au 514-349-6018.
Super, merci beaucoup Alain. Je vous remercie tout le monde de votre attention. Le mot-clé de la semaine est intelligence. Ce sera nécessaire pour obtenir votre attestation FCO à travers le site rivercastmedia.com/questions-de-preuve. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Tous les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Abonnez-vous à Questions de preuve avec iTunes, Google Podcast ou sur n'importe quel agrégateur de balado. À l'animation et à la réalisation, Hugo Martin. À l'assistance audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. La musique et le montage est de René Gagnon. À la recherche, gestion, marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuves.